VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 3 février 2022. Jean-Roger Pion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, la CEDEAO décide de ne pas imposer de nouvelles sanctions au Burkina Faso. Les dirigeants ouest-africains se sont réunis ce jeudi à Accra, au Ghana. En Guinée, la junte gracie deux condamnés dans l'attaque du domicile de l'ancien président Alpha Condé. Le président américain Joe Biden est en visite à New York pour aborder la question des armes à feu. Abu Ibrahim al-Hakimi al-Qurashi, chef du groupe État islamique, a été tué dans une opération américaine en Syrie. Cannes 2021 au Cameroun, Emmanuel Jeulentap nous rejoint dans un instant en ouverture dans le journal des sports. C'est un jour de vérité pour le Cameroun et l'Égypte. Les deux pays lorgnent l'unique place encore en jeu pour la finale de la CAN. Un match épique les oppose ce soir au stade Olembé. Le vainqueur va rejoindre le Sénégal qui a composté son ticket hier après une nette victoire 3-1 devant le Burkina Faso. Le journal de la CAN à Yaoundé avec Emmanuel Jeulentap. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir. Le match Cameroun-Égypte de ce soir est la 11e confrontation qui met aux prises les deux sélections en Coupe d'Afrique des Nations. Tout match confondu, les deux pays ont été face à face à 24 reprises pour 7 matchs nuls, 12 victoires côté Égypte et 6 pour le Cameroun, dont la dernière obtenue lors de l'édition de 2017 de la CAN au Gabon. Le Cameroun joue cette fois sur ses propres installations, mais cela n'impressionne nullement le sélectionneur des Pharaons, Carlos Queiroz.
First of all,
je dois dire que c'est l'un des mots qui ne figure pas dans notre dictionnaire footballistique. Des mots comme peur n'existent pas pour nous. Ils ne figurent pas dans notre dictionnaire de football. Un des mots qui y figure est respect. Et bien sûr, nous avons un grand respect pour l'équipe du Cameroun. Ces joueurs ont très bien réussi et vous avez noté la force de frappe du Cameroun. Ils marquent des buts. Mais nous sommes prêts. Je veux dire que nous sommes dans une phase spéciale avec les derniers matchs, les demi-finales et la finale. Après 5 matchs, je pense que les paris sont ouverts pour toutes les équipes. Et je peux même parler de notre stratégie. Sergio connaît mon équipe et je connais le Cameroun. Notre stratégie est simple et se résume en 3 points. Courir, courir et courir, jouer, jouer et jouer. Et nous espérons être meilleurs que le Cameroun dans la course et le jeu. C'est tout simple comme ça.
And we hope that run, play, we can be better than Cameroon. Simple like that.
Cameroun-Égypte, c'est aussi le duel de deux coachs portugais sur le banc de touche. Carlos Queiroz dirige les Pharaons, tandis que Antonio Conceição est à la tête des Lions indomptables. Une bataille tactique à la portugaise en pleine CAN. Écoutez ce qu'en pense l'entraîneur du Cameroun.
Il a marqué une génération et des carrières au niveau le plus élevé en Europe dans le football portugais. Mérite, n'est-ce pas, ce respect, notamment à partir de Queiroz et des autres qui ont travaillé avec lui. Relativement au match, il est vrai que je sais qu'il va essayer d'élaborer ses stratégies. Il voudra également gagner. Nous aussi, nous voulons gagner. Et donc, notre objectif est également de porter le Cameroun vers la victoire, vers les finales. Et donc, je sens que les 27 millions de Camerounais sont prêts et attendent cela. Ils le souhaitent de tous leurs vœux et comptent beaucoup, n'est-ce pas, sur les Lions indomptables. Et donc nous devons donner ce plaisir et cette joie. Donc, ce que nous allons faire lors de la rencontre, on fera le nécessaire pour être en finale. Et pour moi et pour mon staff technique, ce sera une grande joie. Et pour les joueurs, ce sera une grande joie, n'est-ce pas, de pouvoir faire plaisir au peuple camerounais.
Le public renoue avec le stade d'Olembé. Après un match de suspension consécutif à l'incident mortel du 24 janvier dernier, les supporters des Lions indomptables sont très optimistes quant à l'issue favorable du duel de titans de ce soir.
Je vois le Cameroun qualifié pour la finale. Je ne les vois pas. Je vois pas l'Égypte gagner le Cameroun.
Alors face à l'Égypte, je pense que le meilleur niveau des Lions est revenu. Nous ferons l'histoire pour prendre la finale aussi. On a le fighting spirit et c'est revenu dans l'équipe des Lions.
en match officiel de la CAF, le Cameroun et l'Égypte sont les deux équipes qui se sont le plus rencontrées en Coupe d'Afrique des Nations. Cette affiche cache des enjeux à la fois historiques et sportifs. C'est le sujet du coup de sifflet du jour de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville.
Un classique qui a une lourde charge émotive depuis les années 80 et l'opposition entre la cuvée du barbu Mahdi Abdel Ghani et Taher Abou Zeid pour l'Égypte et pour le Cameroun les ballons d'or Roger Mila, Thomas Nkono et autres docteurs Abiga. L'avantage qui était alors pour le Cameroun a été inversé sous l'ère Abou Treika par les Égyptiens, vainqueurs successifs de trois Coupes des Nations entre 2006 et 2010 au détriment du Cameroun. C'est d'ailleurs de cette époque que date le contentieux qui va encore hanter ce soir les différents acteurs de la demi-finale Cameroun-Égypte. Un match nul synonyme d'élimination pour la Coupe du Monde en Allemagne, imposé à Yaoundé aux Camerounais de Samuel Eto'o, éliminé de peu, avait plongé le pays tout entier dans le deuil. Cette arête reste encore en travers de la gorge du tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football et de tous les Camerounais en quête de revanche. Mais que ceux-ci n'oublient pas que les pharaons d'Égypte se rappellent aussi de leur finale de la CAN perdue au Gabon face à ce même Cameroun il y a deux éditions. Alors, une double histoire de vengeance pour le même match, ça sent forcément la poudre. Affaire à suivre.
Hier, en rappel, le Sénégal s'est qualifié pour la finale. Plus réaliste face au but, les Sénégalais ont marqué 3-1 pour le Burkina Faso qui joue le match pour la 3e place ce samedi. C'est tout pour le journal de la CAN. Emmanuel Jumta, VOA.
À présent, à la suite du journal, les dirigeants de la CDAO réunis ce jeudi à Accra ont décidé de ne pas imposer de sanctions au Burkina Faso où des militaires ont pris le pouvoir le 24 janvier. Le sommet se tient en l'absence du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso qui sont suspendus de l'organisation régionale. Nathalie Barge.
Les dirigeants ouest-africains vont demander aux autorités burkinabées de proposer un calendrier clair et rapide pour un retour à l'ordre constitutionnel. Lors d'un premier sommet, ils avaient décidé de suspendre le Burkina Faso et d'envoyer deux missions sur place. Lors du sommet d'Accra, les chefs d'État ont entendu le compte-rendu des participants à ces missions qui avaient rencontré le colonel Paul-Henri Damiba. Il leur a assuré que son pays, en proie à des attaques djihadistes, a plus que jamais besoin de ses partenaires. La situation au Mali, théâtre de violences djihadistes, a aussi été étudiée. La CDAO a sanctionné en janvier la junte du colonel Assimi Goïta pour ne pas avoir tenu son engagement d'organiser des élections en février. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, également visé par des sanctions, a refusé de se laisser dicter un délai pour la transition. Sept chefs d'État ouest-africains ont participé au sommet, dont ceux du Niger et de la Côte d'Ivoire. Plusieurs d'entre eux doivent se rendre ensuite à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine le week-end prochain.
Toujours au Burkina Faso, le couvre-feu en vigueur depuis le coup d'État a été levé hier, selon un communiqué du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Initialement instauré de 21h à 5h du matin, il avait été réduit de minuit à 4h du matin. La vie nocturne ne reprend pas un cours normal, puisque les réjouissances populaires et événements à caractère festif sont interdits après minuit du lundi au jeudi et après 2h du matin du vendredi au dimanche sur l'ensemble du territoire national burkinabé. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir, a gracié deux officiers condamnés pour l'attaque en 2011 d'un des domiciles du président de l'époque, Alpha Condé. Plus de détails avec Claire Morin-Gibou.
C'est à la télévision publique que le décret a été annoncé. Le colonel Doumbouya accorde la grâce au commandant Alpha Oumar Diallo, dit AOB, et à son co-accusé Jean Guilavogui, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2013. Leur condamnation avait été annulée en 2017 par la Cour de cassation qui avait estimé que leurs aveux avaient été extorqués sous la contrainte et que la Cour d'assises n'avait pas correctement appliqué le droit. La plus haute juridiction judiciaire avait renvoyé leur cas devant un nouveau tribunal, mais les deux hommes n'ont depuis pas été rejugés et étaient toujours en prison. La nuit du 19 juillet 2011, un domicile privé du président guinéen Alpha Condé avait été attaqué à Conakry. Des tirs d'armes de guerre avaient détruit une partie de la maison et tué un membre de la garde présidentielle. Cette attaque avait été suivie d'une vague d'arrestations de militaires proches de l'ex-président de transition, le général Sékouba Konaté, dont le commandant Diallo et l'officier Jean Guilavogui. 10 personnes avaient été condamnées dans cette affaire.
En Guinée-Bissau, le gouvernement affirme que la tentative de coup d'État visait à tuer le président et faisait partie d'un complot bien financé et étroitement planifié selon le gouvernement. Aucune information n'a été donnée sur l'identité des responsables, bien que le président Oumaro Sissoko Embalo ait suggéré que l'opération pouvait être liée au commerce international de la drogue. Un communiqué du gouvernement publié tard mercredi précise que 11 personnes ont été tuées dans l'attaque, y compris 7 membres des forces de sécurité. En RDC, des rebelles des ADF ont lancé mercredi soir une attaque dans une localité frontalière, libérant des prisonniers et provoquant la fuite de milliers d'habitants. Au moins 4 personnes ont été tuées, 2 par balle et 2 dans le mouvement de panique, a affirmé Pascal Saambili Balitusuka, responsable de la chefferie de Watalinga. L'attaque a visé une position de l'armée, un poste de police à Nobili, une localité par où transitent les troupes ougandaises engagées dans une opération conjointe avec l'armée congolaise contre les rebelles ADF.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le dirigeant du groupe djihadiste État islamique Abu Ibrahim al-Hakimi al-Qurashi a été tué lors d'une opération des forces spéciales américaines ce jeudi, avant l'aube en Syrie. Le chef de l'État islamique a été éliminé du champ de bataille, a déclaré le président américain dans un communiqué. Selon un haut responsable américain, le chef de l'État islamique est mort dans une explosion qu'il a lui-même causée lors du raid américain. L'opération héliportée s'est produite à Atmé, une région de la province d'Idleb, et a fait 13 morts, dont 4 femmes et 3 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Abu Ibrahim al-Hakimi al-Qurashi avait succédé à Abu Bakr al-Baghdadi, tué en octobre 2019 lors d'un raid de l'armée américaine dans la même région. Déplacement du président américain Joe Biden à New York aujourd'hui. La ville est meurtrie par une flambée de violence alors que la criminalité est en hausse à travers le pays. Jacques Aristide.
Une tournée marquée d'abord par une visite au siège de la police de New York en compagnie du nouveau maire démocrate Eric Adams, lui-même ancien policier, avant une rencontre avec des responsables locaux dans le Queens. L'an dernier, plusieurs villes américaines ont enregistré des records d'homicides, magasins pillés à San Francisco, enfants tués par des balles perdues et fusillades à Washington. Ces derniers jours, au moins 5 policiers ont été tués à New York et la mort d'une jeune femme âgée de 19 ans pendant le braquage d'un fast-food où elle travaillait a soulevé l'émoi dans la mégapole. Le président Biden est de plus en plus jugé responsable de l'insécurité croissante. Selon un sondage ABC Ipsos à la fin de l'année dernière, le pourcentage d'Américains approuvant son action en matière de sécurité est tombé à 36% contre 43% en octobre dernier. D'après des experts, la vague de violence est une conséquence de la pandémie de Covid-19 qui a fragilisé le tissu social. Les villes américaines demeurent toutefois plus sûres qu'elles ne l'étaient dans les années 80 et 90.
Visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Kiev pour tenter une médiation entre son allié ukrainien et la Russie, ajoutant sa voix à celle des Européens pour éviter un conflit armé. Les précisions de Rosine Monezero.
Le président turc a renouvelé la semaine dernière ses offres de services, avançant qu'en réunissant le dirigeant russe et ukrainien dans son pays, il pouvait ouvrir la voie au retour de la paix. Monsieur Erdogan a été reçu dans l'après-midi par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Il fait valoir l'appartenance de la Turquie à l'OTAN et ses bonnes relations avec Kiev pour tenter sa propre médiation et il espère associer le président russe Vladimir Poutine. De son côté, le président français Emmanuel Macron s'entretient au téléphone avec les dirigeants russes, ukrainiens et polonais. Monsieur Macron envisage une visite à Moscou, tout comme le chancelier allemand Olaf Scholz. Les Occidentaux accusent Moscou depuis fin 2021 d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine en vue d'une potentielle invasion. La Russie dément cette accusation et veut obtenir des garanties sur l'élargissement de l'OTAN vers l'Europe de l'Est.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Depuis le coup d'État au Mali, les relations sont tendues entre le Mali et la France. Le ministre français des Affaires étrangères et la ministre des Armées de France ont tenu des propos jugés inacceptables par les autorités du Mali qui ont expulsé l'ambassadeur de France à Bamako. Cette décision a été très mal perçue par la classe politique française. Quels peuvent être les impacts sur les Maliens vivant en France? Notre correspondant Bouba Sidibé a recueilli les réactions de quelques Maliens en région parisienne.
Depuis des mois, les torchons brûlent entre la France et le Mali. Les dernières décisions prises par les autorités maliennes suscitent des interrogations au niveau des ressortissants maliens vivant en France. Certaines personnes se posent des questions de savoir est-ce que la France ne va pas compliquer la procédure de renouvellement des titres de séjour. Ibrahim Keïta.
Là, je crois que ça aurait un impact grave sur nous, les étudiants ici en France. Parce que là, au niveau de la demande du titre de séjour, par exemple, il peut y avoir des complications à notre niveau. Parce que là, chaque année, on doit faire des demandes de titre de séjour pour pouvoir poursuivre nos études. Et pas seulement au niveau des étudiants. Il y a d'autres personnes qui sont là dans le but de travailler, pas seulement dans le domaine des études. Là, je crois qu'il peut y avoir des complications à leur niveau aussi. Donc du coup, ce qu'on souhaite, c'est que les autorités maliennes et les autorités françaises puissent avoir un terrain d'entente dans le but de résoudre le plus tôt possible ces histoires qui se passent, qu'on voit sur les réseaux sociaux.
Ousmane Ba reste optimiste quant à une issue favorable de cette crise.
Nous espérons quand même que de chaque côté, ils vont essayer d'aller avec quelques débats, ils vont essayer de vraiment s'entendre pour que quand même la cohésion sociale puisse vraiment renaître et puis voilà, que les activités puissent reprendre de façon très normale.
Pour Idrissa, doctorant en droit international, la France appliquera le principe de réciprocité.
On sait tous que sur le plan des relations diplomatiques et consulaires, c'est le principe de réciprocité qui s'applique. Pour ce qui concerne le cas du Mali, qui a demandé à l'ambassade de France au Mali de rentrer chez lui sous 72 heures, la France également peut demander à l'ambassade de Mali en France de retourner au Mali. Et dans ce cas de figure, ça peut avoir des conséquences sur la vie des nationaux qui se trouvent dans chacun de ces pays, notamment la France pour ce qui concerne les Français qui vivent au Mali et les Maliens pour ce qui concerne les Maliens qui vivent en France.
Pour l'heure, l'État français a rappelé son ambassadeur au Mali et a confirmé que la France restera au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Bouba Sidibé pour VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, les autorités de transition ont autorisé les personnes handicapées à traverser les frontières Tchad-Cameroun fermées depuis plusieurs années pour des mesures de sécurité. Décision prise hier à l'issue d'une rencontre tenue entre le premier ministre de transition, les ministres concernés, les services de sécurité et les représentants des personnes vivant avec un handicap. C'est la réjouissance dans le camp de ces derniers parce que ces personnes vont pouvoir reprendre leurs activités commerciales entre le Cameroun et le Tchad. André Kotbajinga, correspondant en VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Depuis 10 ans que la route de Koussiri est fermée pour les personnes handicapées. Et 7 mois de la lutte, et aujourd'hui nous sommes arrivés à la terre promise.
Ali Ousembe de Justin, alias Chez les Noirs, leader d'un groupe de personnes handicapées qui ont géré la rue, faisant face au jet de gaz lacrymogène pendant plusieurs mois pour exiger la levée de cette mesure jugée impopulaire. Maditel Sem Severin, représentant des personnes handicapées au Conseil économique, social et culturel, se réjouit et engage la responsabilité de ses compatriotes.
Nous, les personnes handicapés, la plupart pensent aussi que nous avons seulement que des droits. Or, de l'autre côté, il y a des devoirs vis-à-vis de nous. Donc, nous allons nous organiser sur la base du principe avec les services techniques de la sécurité pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme mécanisme permettant à nos frères et sœurs qui doivent aller là-bas, là, avec des contrôles douaniers et des mesures de sécurité. Traverser, même aller de l'autre côté, c'est un risque encore pour nous. Mais comme c'est difficile, on ne peut pas aussi rester comme ça, oisif, attendre des autres. C'est comme ça qu'on a décidé d'aller aller là-bas.
Ali Ossombe de Justin, qui se positionne comme leader de cette frange de la population, dévoile déjà au micro de VOA Afrique les stratégies pour contenir les brebis galeuses.
On va faire la liste bonne du formant, immatriculer nos tricycles avec le bac. Celui-là qui n'est pas avec nous, on va le traduire devant la justice. Beaucoup de défis restent à relever. Dans les 23 régions du pays, il faudrait que le gouvernement s'accorde à former les personnes handicapées par région, leur apprendre à pêcher. L'intégration de personnes handicapées de 5000 jeunes qu'ils auront intégrés, il faudrait qu'il y ait quota aussi des personnes handicapées diplômées.
Pour Béral Baïkoubou, non-voyant membre du Conseil national de transition, la décision interdisant les personnes handicapées de traverser les frontières avec les tricycles est irréfléchie et ne devrait pas constituer un débat.
Irréfléchie du simple fait que le tricycle, pour une personne à mobilité réduite, c'est une prothèse. C'est exactement comme un myope qui chausse une paire de lunettes pour voir plus clair. Donc il est complètement insensé que l'on soit allé jusqu'à inscrire le tricycle au rang des véhicules interdits de traverser la frontière tchado-camerounaise.
Pour beaucoup de Tchadiens, les personnes handicapées font une concurrence déloyale puisqu'elles font le trafic de certaines catégories de bières pourtant produites par les entreprises locales. Le conseiller Béral Mbaïkoubou estime que ces arguments ne sont pas fondés.
Nous sommes dans une zone CEMAC qui autorise la libre circulation des biens et des personnes. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le Tchad est en train de se lancer dans une aventure dangereuse telle que la zone de libre-échange commercial en Afrique, la ZLECAF, qui a été conceptualisée par l'ensemble des pays africains pour que les produits circulent de manière libre. Donc cet argument de la concurrence déloyale, pour moi, il n'est pas recevable.
En dehors de la concurrence déloyale, les autorités en charge de la sécurité publique justifient l'interdiction de la mobilité de tricycles entre les deux pays par le fait que les personnes handicapées profitent de leur situation pour faire des trafics d'armes, des boissons frelatées et des produits prohibés. André Kordouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Depuis 5 jours, une vingtaine d'artistes sont présents à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont venus du Rwanda, du Burundi ou de la RDC et veulent créer un hymne de la fraternité et de la paix dans toute la région des Grands Lacs. Les détails avec notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
Slameurs, chanteurs et rappeurs travaillent ensemble pour promouvoir la paix et les vivre ensemble dans cette région par les biais des hymnes dits des fraternités. Thomas Lusango explique.
Voilà, c'est l'hymne de la fraternité, bon, qu'on peut aussi appeler l'hymne de la paix. C'est en fait des mots que nous avons trouvés en parfaite communion et harmonie avec les artistes de beaucoup de communautés du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Est, du Grand Lac, disons. Et c'est comme ça qu'on a trouvé l'hymne avec les propres mots qu'ils utilisaient, les mots en swahili, en français, en kinyarwanda, en kirundi, en machi, en kilega, en kinandé et plusieurs langues de chez nous.
Depuis de nombreuses années, beaucoup de pays de la sous-région des Grands Lacs subissent des guerres tribales, des rébellions et l'insécurité. Victoire Ngitese, artiste rwandaise, est l'une des participantes. Elle espère que cette initiative va contribuer à unir le pays de la région.
Ce n'est pas aussi facile de vivre dans un endroit où il y a l'insécurité et l'accusation mutuelle entre la population. Mon message que je lance, c'est le message de l'union, de l'unité. Quand on est divisé, c'est facile d'être détruit. Alors mon message que je lance dans cet hymne, c'est le message de l'unité, le message de l'union, de se mettre ensemble pour combattre les forces négatives qui viennent de l'extérieur.
Pour Bénédicte Luendo, chanteuse congolaise, le message aux habitants de la région, c'est que le voisinage entre le pays des Grands Lacs est la preuve du destin qui nous unit et auquel nous ne devons pas renoncer.
Le message que j'ai à lancer, c'est-à-dire que nous devons oublier notre identité à un certain moment et nous dire que nous sommes un, nous sommes liés par le destin du voisinage. C'est pas par hasard que tous, nous sommes membres de la région des Grands Lacs. Ça prouve que nous sommes un.
Cet hymne qui mêle chant, rap, slam et danse traditionnelle des différents pays sera présenté au grand public lors de la 8e édition du festival Amani, qui signifie paix en swahili, qui se tiendra à Goma à partir de demain jusqu'au 6 février et avec plusieurs artistes et spectateurs pour promouvoir et prêcher la paix dans la région. Zanem Netizaïdi à Goma pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la résurgence du M23 et l'insécurité persistante dans l'est de la RDC, alors que les éléments des forces démocratiques alliées continuent de sévir dans cette zone. Le M23, groupe rebelle défait en 2013, a refait surface depuis novembre et a récemment mené une attaque spectaculaire contre les FARDC dans le territoire Rutshuru. Ceci alors que l'état de siège, instauré dans deux provinces de l'est depuis mai 2021, est toujours en vigueur. Pourquoi la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC en dépit de l'état d'urgence? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin s'ouvrent demain. Des athlètes venus d'un peu partout de la planète auront l'occasion de réaliser leurs rêves. Les conditions d'entraînement ont toutefois été compliquées par la pandémie de COVID-19. Caroline Pressotti de la VOA a rencontré trois Olympiens américains avant leur départ pour la Chine. Son reportage est relaté par Jacques Aristide.
L'athlète Christmas Duff est de la luge de course, petit véhicule qui glisse sur la glace à une allure fulgurante.
C'est comme des voitures de course Formule 1 version traîneau qui glisse à 90 000 à l'heure.
L'Olympienne Katie Yolande, elle, pratique la course de skeleton.
C'est comme une plaque à pâtisserie beurrée sur laquelle vous glissez aussi vite que possible.
L'Olympien Kevin Bigne fait du saut à ski.
C'est comme atteindre le sommet de la colline. Au cours du vol, ce sont les conseils de mes entraîneurs qui me viennent à l'esprit.
Ces trois athlètes américains sont en quête de médailles d'or aux Jeux Olympiques de Pékin. La pandémie de coronavirus n'arrange pas les choses.
Il faut obtenir le bon test. Alors oui, c'est définitivement un casse-tête logistique.
L'équipe américaine de luge a embauché un agent de liaison chargé de tout ce qui a trait au Covid-19. La vaccination, les tests de dépistage et les masques sont obligatoires. Il y a un an, la Chine a tenu des épreuves tests à l'intention des athlètes avant leur arrivée pour la vraie compétition.
Ils nous testaient tous les jours. Ils portaient des combinaisons de protection pour s'approcher de nous au cas où nous ne sommes pas passés par une quarantaine de 3 semaines et nous portions toujours le masque.
Avant les Jeux, les athlètes ont connu des gymnases fermés et des pertes de revenus dues à l'annulation de tournois. Pour garder la forme, Katie Yolande a travaillé comme assistante arboriste.
J'abattais des arbres, je déplaçais les bûches. C'était un excellent substitut à la salle de gym pour rester en forme. De plus, je me trouvais dans les bois, c'est l'un de mes endroits préférés.
Kevin Bigne dit qu'il a hâte d'atterrir à Pékin.
Je ne pense pas que les athlètes vont propager le Covid dans le village olympique. Je ne vais pas trop m'inquiéter à ce sujet. Ce sera certainement un peu de soulagement.
Tout comme aux Jeux d'été de l'année dernière à Tokyo, aucun spectateur ne sera autorisé dans les tribunes à Pékin. Même s'ils ne seront pas accompagnés de leur famille, ces trois athlètes américains n'ont qu'une chose en tête, ramener de l'or aux États-Unis.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui, sur 101.7 FM. Clédou FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Alfaïda FM, Kaolack, Sénégal, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.